Le bahut Henri II. Nous en étions arrivés à ce moment du dîner où se produit ordinairement l'explosion des sentiments généreux. D'un commun accord, nous flétrîmes l'esclavage. La question avait été mise sur le tapis par un gros garçon que l'on prétendait être un fils naturel de Monseigneur de la Vigerie. Le fait est que l'extrême rubiconderie de son teint semblait dériver immédiatement de quelque pourpre cardinalis. Ce dîner était un dîner joyeux, composé de quelques Portugais, lesquels, ainsi que l'affirme un proverbe arabe, n'engendrent jamais la mélancolie. Il y avait là le major Saligo, Etimeo Danaos, Edonia Ferrantes, la seule dame de la société, et sinon, Evero, Eben Trovato, et quelques autres que j'oublie. En fait de français, l'écarlate bâtard, le lieutenant de vaisseau Bec dans l'eau, et moi. J'ai dit plus haut que nous flétrissions l'esclavage d'un commun accord. Cela n'est pas tout à fait exact. Bec dans l'eau ne flétrissait rien du tout. Bec dans l'eau semblait pour le moment étranger à toute indignation. Ce fut la belle Doña Ferrantes qui s'en aperçut la première. « Eh bien, capitaine, fit-elle de sa jolie voix andalouse, ça ne vous révolte pas, ces hommes vendus par des hommes, ces hideux marchés d'Afrique ?»« Je vous demande mille pardons, signora, répondit l'homme de mer, je me sens indigné au plus creux de mon être, mais ma conduite passée m'interdit de me joindre à vous pour conspuer publiquement ces détestables pratiques. » Après un silence, il ajouta, « Moi qui vous parle, j'ai vendu un homme. » Ce souvenir ne semblait pas torturer à l'excès notre ami Bec dans l'eau, car il éclata d'un rire auquel le remords n'enlevait rien de sa joyeuse sonorité. « Vous, capitaine, vous, l'honneur de la marine française, vous avez vendu un homme ?»«
J'ai vendu un homme, » insista Bec dans l'eau, toujours gai.
« En Afrique ?»«
Non, pas en Afrique, en France. »«
En France ?»«
Parfaitement, et même mieux à Paris. »«
À Paris ?»
Parfaitement, et même mieux à l'hôtel des ventes, rue de Rouault.
Du coup, nous jugeâmes que l'intrépide marin se gaussait de nous. Le fils naturel de Monseigneur de la Vigerie se fit l'écho de tous. « Vous vous payez notre poire, capitaine !» Sans s'arrêter à cette apostrophe triviale, Bec dans l'eau reprit.
« Oui, signora.
Oui,
messieurs, j'ai bazardé un bonhomme à l'hôtel des ventes. Ça n'est même pas une brillante opération que j'ai faite là. J'ai perdu 350 francs. Mais j'ai bien rigolé. » Un point d'interrogation se peignit sur chacune de nos faces.
« Comptez-nous cela, » ordonna Ferrantes.
Un marin français n'a jamais rien refusé à une grande dame andalouse. Le fait est bien connu.
Je passe sous silence le cigare classique qu'alluma le conteur, les spirales traditionnellement bleuâtres qu'il contempla un instant, et j'arrive au récit de Bec dans l'eau.
Il y a de cela 3 ans, j'arrivais du Sénégal avec un congé de 6 mois de convalescence et bien disposé à en profiter largement. Un petit héritage que je venais d'accomplir me permettait de bien faire les choses. Je louais, rue Brémontier, un rez-de-chaussée que je meublais fort gentiment, ma foi, et me voilà parti pour la vie joyeuse. Un soir, au jardin de Paris, je fis connaissance d'une jeune femme qui me plut énormément. Pas étonnamment jolie, mais d'une distinction et d'un charme, très réservée avec cela et ne ressemblant nullement à toutes ces marchandes d'amour qui peuplaient l'endroit. Elle me raconta une histoire à dormir debout, dans laquelle je coupais, d'ailleurs, comme un rasoir. Fille d'un général, élevée à Saint-Denis, père remarié, belle-mère acariâtre, scène continuelle, existence impossible, fuite, malheur, envie de suicide. Le tout accompagné de larmes furtives qu'elle essuyait fréquemment avec un mouchoir sentant très bon. Ce qui suivit, vous le devinez tous, n'est-ce pas? J'emmenai la jeune personne chez moi, l'installai, la lotis d'un amour de petite femme de chambre. Bref, je fus bon avec elle, comme s'il en pleuvait, et discret et bien élevé. Tout à fait charmant, vous dis-je. Je la laissais seule presque toute la journée, ne venant l'acquérir que le soir, vers 6 heures, pour dîner, aller au théâtre, au concert. Elle semblait s'être prise pour moi d'une ardente passion et me répétait souvent. « Quand vous me quitterez, mon ami, je me tuerai. » Diable ! Je commençais à devenir sérieusement inquiet de la tournure que prenaient les choses quand, un matin, l'amour de petite femme de chambre me remit un billet qu'elle me pria de lire plus tard dans la journée.
« Monsieur, disait le billet, n'a pas idée de ce que madame se fiche de monsieur. Monsieur n'a pas plutôt les talons tournés que madame reçoit une espèce de gigolo qui marque bigrement mal.
Au cas où monsieur rentrerait brusquement, ce qui est déjà arrivé une fois, l'affaire est arrangée. Le gigolo se glisse dans le bahut Henri II qui sert de coffre à bois pendant l'hiver. Madame donne un tour de clé au bahut, met la clé dans sa poche et ni vu ni connu. Comme le couvercle ne joint pas très bien et que le bahut est très grand, le gigolo n'est pas trop mal pendant que monsieur est là. Pour être sûr de piéger le gigolo, venir de préférence vers 2 heures de l'après-midi. Marie. D'abord, je me refusais à croire à tant d'infamie, mais tout de même, j'étais là vers 2 heures. Une mimique expressive de l'amour de petite femme de chambre m'apprit que j'arrivais bien. Hélène, vous ai-je dit que la personne s'appelait Hélène ? Hélène me reçut avec le plus enchanteur de ses sourires et la plus calme de ses physionomies. Quelle bonne fortune de vous voir à cette heure ! La clé du bahut n'était pas sur la serrure, une grosse clé en fer forgé de l'époque, assez malaisée à dissimuler. Quelques privautés manuelles m'apprirent à n'en pas douter que la clé se trouvait dans une des poches de la belle. Donc, plus de doute. Comme l'idée me vint de faire ce que je fis en cette circonstance, je n'en sais encore rien, une lueur de génie sans doute. J'envoyai Hélène m'acheter une cravate chez un semisier de l'avenue de Villiers, prétendant qu'elle seule saurait la choisir à mon goût. Pendant son absence, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, j'arrêtai une voiture, aidé d'un commissionnaire, je chargeai le bahut Henri II et en route pour la salle des ventes. Le meuble, grâce à quelques pièces de 100 sous judicieusement distribuées, prit place dans un mobilier qu'on allait mettre en vente. On fit bien quelques difficultés pour la clé absente, mais l'état du dehors répondait pour la conservation intérieure. Au bout d'une demi-heure, un Auvergnat en faisait l'acquisition pour la somme de 250 francs. Il m'en avait coûté 600. Mon bahut fut chargé avec son contenu sur une énorme voiture de déménagement. On entassa par-dessus les objets les plus hétéroclites. Literies, bronzes d'art, bouteilles de vin, cages à oiseaux, voitures d'enfants, lustres en cristal, etc. Sous cet attirail, le gigolo devait mener un train d'enfer, mais les parois épaisses du bahut étouffaient ses clameurs. Dans quelle direction fut-il dirigé ? Lui rendit-on promptement sa liberté ? Ou bien, s'il y est encore, je ne songeais jamais à m'occuper de ces détails, mais je vous les répète, signora et messieurs, si j'ai ri dans ma vie, c'est bien ce jour-là. Quant à Hélène, je ne la revis pas. L'amour de petite femme de chambre m'apprit qu'elle avait quitté mon appartement après avoir fait un petit paquet de ses objets précieux et sans faire la moindre allusion aux meubles qui manquaient. Depuis ce temps-là, j'ai banni tout bahut Henri II de mes ameublements.